BFM Business et CB News présentent Hebdo.com avec Aurélie Planex.
Bonjour à tous, bienvenue dans Hebdo.com sur BFM Business. Aujourd'hui, émission spéciale depuis un an, vous le savez maintenant, BFM Business suit Paul Meillat, skipper SMA, dont le contrat de sponsoring se termine justement cette fin d'année. Il vient de remporter la Route du Rhum en catégorie IMOCA. Il viendra nous parler de ses démarches pour trouver de nouveaux partenaires et de nous parler également de ses engagements en tant que skipper. On sera également avec Annabelle Grandjean, directrice de la communication du groupe SMA, et Magali Thesnas-Dumoncel, déléguée générale de Sportsora. Et puis dans Solutions Mailing, nous rencontrerons Marion Belloc, responsable campagne marque de Made.com. Hebdo.com, ça commence tout de suite avec les news.
BFM Business, Hebdo.com, les news.
Et comme chaque semaine, on retrouve Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News. Bonjour Frédéric.
Bonjour Aurélie.
Et bonjour Charlotte Bricard de la rédaction de CB News. Charlotte, l'enseigne britannique John Lewis s'offre Elton John pour Noël.
Oui, ça ne vous aura pas échappé, la course aux cadeaux de Noël a été officiellement lancée sur la planète pub. En l'occurrence, les meilleurs spots nous viennent chaque année de Grande-Bretagne et plus particulièrement d'un distributeur, John Lewis, attendu comme le Messie par les publicitaires en veille. Alors cette année, le distributeur et le grand magasin ont choisi Elton John au piano qui se remémore les grands moments de sa carrière. Un piano qu'il aurait reçu un 25 décembre au matin, il y a quelques années de cela. Nul besoin d'apprécier les qualités de pianiste d'Elton John pour apprécier ce spot. La réalisation de Seb Edwards suffira à vous convaincre.
Tiens, et puisqu'on parle de culture, c'est Leclerc qui s'y met aussi cette semaine.
Oui, les espaces culturels Leclerc s'intéressent aux raisons de s'intéresser à la culture. Ils insistent sur la nécessité pour une marque de rappeler que l'accès à la culture ne doit passer par les magasins face aux mastodontes du web. Alors que ce soit pour faire plaisir, pour rajeunir ou pour séduire, ils concluent leur spot en disant « peu importe la raison, l'essentiel est de savoir où la rencontrer ». Le dernier spot de l'année est aussi le dernier spot de l'agence Australie qui pilote le budget de la marque depuis plus de 20 ans. Un budget désormais aux mains de BETC. Rendez-vous en 2019 pour voir la suite.
Et puis Kantar Media a dressé cette semaine un bilan du Black Friday, Charlotte.
Le Black Friday fortement décrié sur les réseaux sociaux pour sa propension à générer une surconsommation inutile a été largement supporté et encouragé par les médias et les annonceurs français. Kantar Media a dénombré pas moins de 16 000 retombées médiatiques, soit à peu près 56 mentions quotidiennes sur la période concernée. Il comptabilise également 355 créations publicitaires dédiées, majoritairement diffusées en radio et en presse, par des annonceurs, parmi lesquels on retrouve Leclerc et la distribution en général, qui pourvoit 60% de ces nouvelles créations.
Et puis on termine avec cette opération, alors pour le moins étrange, signée Mike Horn, l'aventurier.
Oui, vous aurez peut-être aperçu Mike Horn qui vante un produit révolutionnaire sur les réseaux sociaux depuis quelques jours, Aero Clean Nation. Alors, un ballon d'hélium dans une main et un sac poubelle dans l'autre, il propose une gestion des déchets assez étonnante puisqu'il invite chacun à les envoyer dans l'espace et à suivre grâce à une application dédiée le chemin de ces 10 déchets dans les différentes couches atmosphériques. Derrière ce projet fantasque, on retrouve en fait les principaux fabricants de cartons alimentaires, parmi lesquels Tetra Pak, qui invitent à une autre solution beaucoup plus évidente qui consiste à utiliser des emballages en carton de préférence. Une opération signée Artefact.
Alors Frédéric, un commentaire sur cette campagne pour le moins étrange.
Ben moi je trouve que c'est assez rigolo parce qu'on tombe assez facilement dans le panneau.
De... Non mais franchement vous êtes tombé dans le panneau, vous avez cliqué pour envoyer vos déchets dans l'espace.
Non, j'ai pas cliqué pour envoyer mes déchets dans l'espace. Mais après tout, à une ère où on invente des choses absolument étonnantes toutes les semaines, pourquoi pas? Et c'est assez marrant de retomber sur ce qu'il y a de plus simple qui est, ben, il faut utiliser les bons emballages, ceux qui se recyclent simplement plutôt qu'avoir des idées aussi farfelues. Je trouve ça pas mal moi.
Merci Charlotte Bricard.
BFM Business, Hebdo.com, l'invité.
Alors ce sont plutôt les invités de la semaine d'ailleurs, pour cette semaine, émission spéciale avec donc Paul Meillat, bonjour.
Bonjour.
Skipper SMA et vainqueur de la Route du Rhum en IMOCA et Annabelle Grandjean, bonjour.
Bonjour.
Directrice de la communication du groupe SMA, alors pour rentrer tout de suite dans le vif du sujet, retour d'abord sur votre victoire en Route du Rhum, Paul, avec Marie Valogne.
Après 12 jours, 11 heures et 23 minutes de course, Paul Meillat franchit la ligne d'arrivée à Pointe-à-Pitre le 16 novembre dernier. Une course dans des conditions éprouvantes sur un monocoque de 60 pieds, un bateau que le skipper connaît bien après 4 ans de préparation. Pas de foil ni de technologie nouvelle sur cette IMOCA, mais Paul Meillat a une parfaite connaissance de son bateau et réussit à se hisser aux avant-postes de la course dans le trio de tête. Au final, Alex Thompson franchit en premier la ligne d'arrivée, mais une pénalité de 24 heures est infligée aux Britanniques pour avoir utilisé son moteur quelques heures plus tôt afin d'extirper son bateau des rochers. Le sprint final est intense, mais Paul Meillat tient le rythme et arrive en Guadeloupe. Il est déclaré vainqueur en catégorie IMOCA. À 36 ans, il signe sa première grande victoire en solitaire, une victoire qui lui permettra peut-être de trouver un nouveau sponsor pour le Vendée Globe en 2020.
D'abord, Paul, peut-être un mot de cette victoire dans des conditions un peu particulières, mais c'est pas pour autant qu'elle est moins belle.
Ah bah non, c'est souvent quand c'est le plus dur qu'on est satisfait. C'est vrai que c'était un combat acharné à 5 en fait, même à 4 plutôt. Pendant la traversée de l'Atlantique, Alex a fait une course remarquable et bon, malheureusement, il fait une erreur de trop. On a tous fait des petites erreurs. J'ai essayé d'en faire un peu moins que les autres et ça m'a souri sur l'arrivée.
Annabelle, qu'est-ce que ça fait justement de terminer votre partenariat, puisque votre partenariat SMA avec Paul s'arrête à la fin de l'année, là, au mois de décembre. Qu'est-ce que ça fait de terminer sur cette victoire? Est-ce que vous vous dites, ah mince, peut-être on aurait dû aller plus loin, ou au contraire, est-ce que vous dites finalement c'est la plus belle des façons pour finir?
On est complètement sur la plus belle des façons pour terminer. C'est vrai que pour nous, on a vu cette victoire avec un grand enthousiasme. Savoir que Paul inscrit à son palmarès la Route du Rhum, qui est une très belle course, c'est pour nous une vraie satisfaction de terminer de cette manière-là ces 5 ans de partenariat.
Et Paul, d'être le vainqueur, ça fait plaisir. Et en plus, est-ce que ça vous aide pour la suite, pour l'année prochaine? Est-ce qu'on voit le fait d'être un vainqueur donne un avantage pour trouver un sponsor?
Alors justement, c'est oui et non. C'est la voile, c'est cette particularité de pas forcément faire de lien entre la performance sportive et derrière la poursuite de la carrière ou trouver un sponsor. Bon, forcément, ça me donne de la légitimité, ça me donne du temps de parole, comme aujourd'hui. Hein, je peux m'exprimer, dire que je cherche pour le prochain Vendée Globe. Mais malheureusement, on n'est pas comme dans le foot, qui est quand même un modèle sportif en France, qui, bon, un bon joueur qui fait un super match, bah, il a une cote et puis il va être pris par un bon club, quoi. Et nous, ça fonctionne pas
et
comme
pourquoi
ça.
C'est pas comme ça, c'est bizarre.
C'est un sport qui s'est professionnalisé assez tard. Le modèle de partenariat qui existe aujourd'hui, c'est quelque chose d'assez récent. Le fait que des entreprises s'intéressent à des skippers qui portent leur marque, qui vont à la rencontre des collaborateurs, qui portent les valeurs de l'entreprise, c'est quelque chose qui existe depuis peu, en fait, je dirais une dizaine d'années. Et donc, du coup, la voile n'est pas encore un produit sur le marché du sponsoring. Comme les autres, je pense que ça en prend le pas, mais on n'y est pas encore. Et voilà, c'est pour ça qu'il faut travailler, pour rencontrer du monde et porter ce message que oui, la voile porte des bonnes valeurs et t'as vraiment une satisfaction pour les entreprises, quoi.
Ouais, justement, vous évoquiez les collaborateurs. Annabelle, comment est-ce que vos collaborateurs chez SMA, ils ont suivi cette course? On a vu que depuis 5 ans, on l'a déjà raconté sur cette antenne, hein, Paul était très, très impliqué auprès des salariés. Comment ça s'est passé, du coup?
Alors, c'est une très belle course, donc c'est vrai qu'elle a eu un écho énorme en interne et les collaborateurs l'ont suivi pratiquement heure par heure. Cette course a été très dense puisque Paul, il y avait un trio. Et donc il y avait sans arrêt un questionnement. Paul était deuxième, il fallait pas qu'il se laisse dépasser. Donc en fait les collaborateurs l'ont suivi au plus près avec une intensité qui fait que certains collaborateurs sont venus me voir en me disant il faut qu'elle s'arrête cette course, je n'en peux plus.
Ça les stresse.
Et, voilà, exactement, avec le stress et pour l'arrivée qui s'est déroulée à 2h du matin heure française, je savais que il y avait beaucoup de collaborateurs qui étaient encore debout et qui écrivaient en pleine nuit. Bon, il faut qu'ils gagnent, Donc voilà, il y a vraiment eu un enthousiasme fou derrière Paul pour tout au long de cette course.
Paul, vous avez rencontré tous les collaborateurs ou quasiment du groupe SMA. Vous êtes allé leur dire au revoir aussi, du coup?
Eh ben, pas à tous, mais on a eu une belle journée en fait mercredi. C'était la journée du management, donc les managers SMA du groupe qui m'ont réservé un accueil quand même assez fabuleux. Et c'était vrai que ça m'a touché de les voir, parce que c'est vrai que ça fait 4 ans qu'on partage ensemble toutes ces aventures. Il y a eu des hauts, il y a eu des bas, et voilà, c'est vrai que en 4 ans j'ai senti l'enthousiasme forcément monter dans l'entreprise. Et voilà, c'est la victoire de tout le monde. C'est ce que je dis. C'est du bonheur de finir ces 5 années comme ça, parce que ça c'est une réussite et du coup on en gardera tous le souvenir d'une réussite.
Annabelle, le fait d'avoir gagné, c'est la cerise sur le gâteau dans votre partenariat avec Paul. Et maintenant, je ne sais pas si vous pouvez nous dire ce que vous allez faire, si CSMA sait déjà ce qu'il va faire, mais est-ce qu'il ne faudra pas que ce soit aussi brillant et excitant, quels que soient vos futurs investissements ?
Raison de plus pour temporiser.
C'est très difficile. On peut se donner le temps de la réflexion.
Exactement. Du coup, là, on va se donner le temps de la réflexion. Réfléchir vraiment à ce qui va être le plus important par rapport à notre stratégie de marque. Et donc, finalement, l'an prochain va être ce temps de réflexion.
Du coup, ça vous permet de capitaliser cette victoire vous
exactement.
Permet d'autant plus de capitaliser
sur... Et le fait aussi de pas embrayer tout de suite sur quelque chose nous permet de bien terminer avec Paul, mm-hmm. de prendre le temps aussi, comme le disait Paul, de venir à la rencontre des managers pour saluer les managers et inversement pour qu'on puisse saluer Paul. Et puis de bien terminer le projet, de bien accompagner Paul aussi maintenant sur la phase de recherche. Et puis ensuite, effectivement, on pourra réfléchir à ce que l'on fait après.
Donc votre objectif, Paul Meillat, c'est le Vendée Globe 2020. Donc vous vous êtes fixé une deadline là pour trouver un sponsor. Vous avez besoin d'un budget de combien et d'ici quand ?
Ah, la deadline, elle est un petit peu, chaque jour devient une deadline, hein, parce que le Vendée Globe,
ça
c'était
prépare,
pendant
ouais.
la Route du Rhum qui a eu le fameux message que le Vendée Globe est dans 2 ans. Je l'ai reçu pendant la course. Je dis ah oui, c'est sûr, il y a du boulot. Alors ça m'a peut-être donné envie de me battre pendant la course, mais. Et ouais, quelque chose qui serait raisonnable, ce serait de continuer sur ce bateau-là, parce que construire un bateau, c'est quelque chose qui est très long. On peut encore le faire, mais c'est quand même quasiment un an de chantier. C'est un budget plus important aussi. Aussi des retours et forcément un statut au départ qui permet peut-être plus facilement de se positionner comme favori, mais continuer avec ce bateau-là, le modifier, lui mettre des foils, c'est quelque chose qui est possible. Et aujourd'hui, on cherche un ou plusieurs partenaires pour arriver à une enveloppe globale de 2 millions par an à peu près. Donc ça fait 4 millions sur 2 ans. Donc c'est un budget certes conséquent, mais je pense que les valeurs de la voile et l'aventure qu'on est capable de raconter et puis d'aller sur une course comme le Vendée Globe qui est quand même un monument du sport français, c'est une opportunité pour les entreprises.
On va remercier Annabelle Grandjean, directrice de la communication du groupe SMA. Paul, vous restez avec nous, on va continuer à parler de voile.
BFM Business, Hebdo.com, l'édito.
Avec Valérie Potin cette semaine. Bonjour Valérie.
Bonjour.
Et Valérie, dites-moi, on se posait la question, on parlait de sponsoring. Comment est-ce qu'un skipper choisit un sponsor ou vice-versa peut-être d'ailleurs ?
Alors en fait, ça dépend. Disons que quand on s'appelle, en tout cas, quand on est un grand sponsor, qu'on s'appelle Massif, qu'on s'appelle SMA, qu'on s'appelle IDEC ou autre, et qu'on doit investir, qu'on se prépare à investir plusieurs millions d'euros pour envoyer un bateau sillonner les mers et porter un peu haut les couleurs de l'entreprise, forcément, on a un petit peu envie de savoir à qui on a affaire, à qui on va confier son magot et la barre. Donc on fait un petit casting de compétences. Et si dans la plupart des sports, on va dire, il y a une mécanique qui est assez simple hein, de recrutement, qu'on pourrait résumer par au meilleur la fortune et les honneurs. La situation est un petit peu différente dans la voile, où finalement le process, il mixe, il hybride un petit peu des méthodes qui sont empruntées au monde du travail traditionnel, au monde du sport bien entendu, mais aussi, enfin à mon sens, aux univers du cinéma ou de la mode par exemple.
C'est-à-dire ?
Alors en fait, je m'explique. Comme dans le monde du travail normal, je vais te dire traditionnel, on est dans un secteur où il y a énormément de candidats qui se bousculent pour une petite poignée de postes. Donc à partir de là, les sponsors, ils ont en gros deux approches pour leur recrutement. Soit ils vont créer ou s'appuyer sur ce qu'on appelle des filières de formation et de détection de talents. C'est ce qu'a fait pendant des années des CNS, c'est ce que fait encore aujourd'hui Massif. Soit, et c'est ce qui est le plus fréquent, elles vont plutôt lancer un appel à candidature. Un appel à candidature qui vire parfois un peu au casting, parce qu'il y a un très grand nombre de critères assez variables. Alors il y a évidemment les critères sportifs ou classiques que sont le palmarès, l'expérience, typiquement un Francis Joyon pour IDEC, voilà, on est exactement là-dedans. Il va y avoir des critères de communauté de valeur avec l'entreprise, avec la marque, mais vous allez aussi avoir des critères un peu plus personnels, des critères physiques, des critères de sexe, des critères d'âge, etc. Ou d'autres critères qui vont être une vraie affinité avec des nouvelles technologies ou avec les réseaux sociaux. Donc, et au final, vous vous retrouvez avec une fiche de poste, finalement, comme dans le monde du travail normal, pour chaque skipper. Alors, j'ai pas la vôtre, je suis désolé. mais en revanche, la fiche de poste d'Armel Lecléac, par exemple, de Banque Populaire, Lui, on va dire qu'elle se résume, parce qu'elle est plus détaillée que ça, bien sûr, comme un skipper de haut niveau, charismatique, moderne et innovant. Voilà, c'est ce que recherchait, en tout cas, Banque Populaire. On a à peu près la même recherche avec Alex Thompson sur Hugo Boss, avec en plus une petite touche britannique, parce qu'il faut, voilà, la marque veut un rayonnement international. Ouais. Voilà, donc, passer en tout cas toutes ces caractéristiques dont on vient de parler, il faut quand même pas oublier que ce qu'on demande principalement aux skippers, c'est bon de naviguer, de savoir naviguer, bien entendu, mais aussi et peut-être surtout d'être des vrais chefs de projet, de se comporter un peu en chef d'entreprise, soucieux du bien-être de tous, à commencer évidemment par celui de l'actionnaire.
Bon, et Valérie, c'est la seule grande règle commune là à tous les sponsors pour recruter ?
Non, il y en a d'autres quand même, évidemment. Il y en a au moins trois, mais il y en a certainement même d'autres. La première, c'est qu'il faut quand même qu'il y ait une vraie entente, une vraie sincérité entre le skipper et le sponsor, je dirais même entre le skipper et parfois le patron de la marque. Hein. C'est ce qu'on appelle en droit des sociétés l'affectio societatis.
D'accord.
La deuxième règle, c'est qu'il est formellement interdit de shanghaier. Alors, je ne sais pas
de
si vous connaissez, c'est une pratique en fait qui était courante dans les ports et notamment à Shanghai, d'où le nom, et qui consistait à débaucher, à enrôler les marins en leur promettant, alors les marins qui étaient déjà engagés bien sûr, en leur promettant une rétribution. Ça, c'est interdit en voile, il n'y a pas de mercato dans la voile. C'est une vraie spécificité de cette discipline. Et la dernière règle, c'est que le skipper, il doit avoir une vraie fibre communicante. Là, on parle pas de nouvelles technologies ou de d'appétence pour les réseaux sociaux. On parle vraiment d'une compétence de transmission, de storytelling. Il faut savoir raconter des histoires, il faut savoir embarquer son public, qu'il s'agisse de salariés ou qu'il s'agisse de clients. Quel que soit le contexte, ça va être pendant une conférence, pendant un séminaire ou sur un plateau télé, comme on a pu le voir à l'instant.
Et Paul, justement, comment est-ce que SMA vous a recruté initialement ?
Déjà, très très bonne analyse, je partage complètement ces propos. Comment ça s'est fait ? Ça s'est fait avec un petit peu tout ça, en fait. Hein. C'est une volonté du groupe SMA d'aller dans la voile, avec forcément un intérêt pour la compétition et la performance. Donc, c'est une rencontre avec Michel Desjoyaux, en fait. Et puis derrière, tout simplement, des CV, des rencontres. Et moi, j'ai passé un entretien d'embauche, tout simplement. Et puis du coup, je devais correspondre aux valeurs que je recherchais. Mais c'est vrai que c'est aussi nouveau pour nous, cette façon, parce que je disais, la voile s'est professionnalisée. Et puis, on a peut-être été un peu trop sur le sportif au début, en oubliant un peu le storytelling, parce qu'en fait, on part loin et que finalement le seul contact qu'on a avec notre public, c'est de raconter, de faire des vidéos, etc. Et du coup, je trouve qu'aujourd'hui, de plus en plus, on essaye, en tout cas, on en a discuté pas mal après la Route du Rhum, les gens qui veulent gagner des courses essayent aussi de raconter leur aventure. Donc, on n'est plus dans l'opposition entre les sportifs et les aventuriers. Enfin, j'ai l'impression que c'est le tournant qu'on est en train de prendre.
Merci beaucoup Valérie Potin, à très bientôt.
BFM Business, Hebdo.com, le Zoom.
Et dans ce Zoom, on va parler de nautisme et d'engagement. Paul Meillat est toujours avec nous, merci. Et Magali Tézenas du Montcel, déléguée générale de Sportsora, bonjour.
Bonjour.
Alors Paul, vous êtes en pleine construction d'un nouveau partenariat, on le disait. On vient de voir avec Valérie qu'il est important pour les marques de bien choisir justement avec qui elles s'associent. Faut être ambassadeur pour la marque aujourd'hui quand on est skipper, mais l'inverse est vrai aussi, ça marche dans les deux sens. Est-ce que, par exemple, il y a des marques avec lesquelles vous pourriez pas travailler, des univers, des valeurs qui vous correspondraient pas ? Quelles sont vos priorités aujourd'hui ?
Oui, je pense que c'est pas qu'il y a des marques avec qui je pourrais pas travailler, mais c'est des marques qui, si on devait travailler ensemble, devraient avoir une vraie démarche de changement. C'est vrai qu'aujourd'hui, nous, en tant que marins, quand on part faire une traversée de l'Atlantique ou un tour du monde, on a cette prise de conscience, en fait. Ça, c'est révélateur. Il y a le même effet dans l'espace, hein, quand Thomas Pesquet part. C'est qu'en fait, quand on s'éloigne de la Terre, on prend conscience des fragilités. Et donc, du coup, à nous de nous engager pour essayer de protéger et de faire améliorer les choses. Alors, ça peut être des causes environnementales, mais aussi des causes sociétales. Mais en tout cas, en tant que marin, on aime s'engager sur ces sujets-là. Et donc, on essaie d'accompagner les marques dans leur démarche.
Frédéric.
Moi, je reviens un petit peu quand même à la course. Est-ce que, et c'est pour Magali, est-ce que le fait qu'une arrivée aussi disputée et une course aussi disputée que celle-ci est un avantage pour les sponsors ? Est-ce que, en termes d'unité de bruit médiatique, comme on dit, ça fait monter l'intérêt ?
Oui, bien sûr. Ce que recherche une marque quand elle vient s'associer à un sport, là, on est sur le sujet de la voile, mais c'est vrai sur tous les autres sports, c'est évidemment d'avoir des histoires à raconter, d'avoir du suspense. Le sport, si vous voulez, est un outil de communication qui est extrêmement puissant pour les marques, parce qu'il vous permet de vous associer à une passion. Quand on est fan de sport, on est passionné. Donc vous allez pouvoir atteindre de nombreux objectifs grâce à votre association de marques au sport. Ça peut être en fonction des marques, un objectif de visibilité, de notoriété, d'image de marque, de préférence de marque, un objectif business hein, en termes de vente, mais un objectif aussi interne d'engagement des collaborateurs. On en a parlé beaucoup dans la voile parce qu'effectivement c'est une activation très forte pour les marques. Et bien sûr que ce qui va aussi médiatiser beaucoup plus la marque, ce sont ces histoires absolument extraordinaires de ce que vivent les skippers en mer, et effectivement c'est très appréciable pour une marque.
C'est quasiment le seul sport avec peut-être la course à pied où on trouve aussi des causes qui sont sponsors, non?
Oui, effectivement, et c'est ce que Paul disait. Aujourd'hui, si vous voulez, les marques, elles ont et les entreprises sont bien conscientes du rôle qu'elles ont dans la société. Et quand aujourd'hui une marque met en place une stratégie de marketing sportif, elle a pratiquement toujours un volet sociétal dans son activation. Elle va s'associer à des ONG, à des causes sociétales. C'est vrai que sur cette route du Rhum, tout particulièrement, on a vu beaucoup de belles causes qui ont été défendues. Donc vous avez des partenaires, des mécènes qui vont financer effectivement un bateau, un skipper, et qui vont mettre en avant une cause. Donc là, évidemment, on a des causes qui sont assez légitimes sur la protection de l'océan, mais aussi avec Initiative Cœur, vous savez, qui permet de reverser à Mécénat Chirurgie Cardiaque à chaque fois qu'il y a un clic, un euro pour permettre d'opérer des enfants qui ont des malformations cardiaques. Et ça, les partenaires aiment beaucoup ça, et c'est pour ça que c'est important aussi, et c'est ce que fait Paul, et pour qu'on soit partenaire aussi d'un bateau et d'un skipper, c'est important qu'il ait ses engagements sociétaux, parce que les marques ont besoin de donner du sens à leur engagement sociétal, et elles le retrouvent aussi dans le sport de cette façon-là.
Paul Meya, justement, c'est une option de travailler avec une cause, par exemple?
Bah, pour moi, c'est évident. Donc, c'est vrai que on l'a fait au final cette année hein, avec ASEMA, puisqu'on a accompagné une cause moi qui me touchait beaucoup, c'était l'apprentissage. Ouais. Et c'est pas une cause, mais c'est vraiment quelque chose. C'est un enjeu sociétal aujourd'hui de remettre en avant l'apprentissage, parce qu'on sait que ça a des valeurs pour lutter contre le chômage. Pour moi, ça a des vraies valeurs parce qu'on remet en avant le travail manuel. Enfin, c'est des choses qui me plaisaient beaucoup. Mais voilà, moi, je suis engagé depuis 10 ans avec Surfrider Foundation, c'est de l'environnement. On parlait aussi sur la route du Rhum, il y a une initiative qui était super, c'est Sydney Gavinet qui a gagné en classe Rhum Mono. C'était Café Joyeux. Alors Café Joyeux, c'est faire travailler des gens dans un café qui sont atteints de trisomie. Donc voilà, c'est montrer aussi, je crois que la voile a des valeurs humanistes qui montrent que au final c'est l'humain et ce qu'on est qui est le plus important, et pas forcément il n'y a pas que la technologie. C'est sûr qu'on est sur un sport technologique, mais avant tout les valeurs d'équipe, de solidarité. Il y a une solidarité des gens de mer qui est incroyable. Donc voilà, c'est ça, je trouve, que le message qu'il a donné. Quand on part sur l'eau, j'ai l'impression qu'on devient une meilleure personne. Enfin, j'ai l'impression que ça rend bon.
Bon, bah, ce sera une parfaite conclusion, je crois. Merci beaucoup, Paul Meya, skipper. Donc, SMA encore jusqu'à la fin de l'année, hein, c'est ça, Paul?
C'est ça.
Et Magali Thézénas-Dumoncel, déléguée générale de Sport Sora. Merci. Fin de cette page spéciale Route du Rhum. On se retrouve pour Solution Mailing.
Professionnels de la communication, inspirez-vous des plus belles opérations de mailing avec La Poste Solution Business.
BFM Business, Hebdo.com, Solution Mailing.
Avec Marion Belloc, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable campagne marque de Made.com, site spécialisé dans le mobilier design et la décoration. Vous venez nous parler d'une campagne que vous avez lancée récemment pour développer votre présence à Lyon et à Toulouse. Comment est-ce que vous avez construit cette campagne ?
Alors, faut peut-être repartir un petit peu en arrière, en fait. Donc, Made.com, pour rappel, c'est une marque de design en ligne qui existe en France depuis maintenant 5 ans, qui a connu une jolie croissance. Donc, pour une marque de design en ligne, l'enjeu va être de créer du lien. Et donc, ça passe par du lien physique, ce qu'on met déjà en place sur Paris au travers de notre showroom. Et donc, il y a désormais un enjeu d'aller étendre un petit peu cette visibilité, de créer ce lien en région, et notamment au travers de ces deux villes, Lyon et Toulouse, qui manifestaient un intérêt assez important pour la marque. Parce que justement, grâce à notre connaissance, de par le modèle que l'on a, on a pu identifier des régions intéressantes, des audiences intéressantes. Donc, on a été du coup sur ces deux villes. Et donc, comment ça s'est traduit? On a choisi le mailing donc au travers d'un joli catalogue de 40 pages. Un catalogue du coup qui a été vraiment pensé comme un écrin de marque. On a vraiment utilisé les codes que l'on pourrait avoir dans une réflexion design, qu'on a appliqué finalement à une application éditoriale.
D'accord, mais moi je croyais que le catalogue c'était mort.
Eh ben non. Aussi étonnant que ça puisse paraître justement. Je crois qu'on a peut-être été parmi les pionniers, mais je crois qu'il y a d'autres marques qui embrayent le.
C'est le retour du catalogue alors.
Ouais, tout à fait. Donc parce que nous vraiment, il y a vraiment cet enjeu d'aller créer ce lien finalement, parce que c'est un support physique. Nous on édite des meubles, mais pas que, on édite voilà des produits qui sont physiques. Donc il y a vraiment un petit peu une évidence. Et puis voilà, on est une marque en ligne, donc on va présenter des jolies images, mais on est sur un temps finalement qui est assez rapide. Là où finalement avec un catalogue qui est envoyé directement chez les clients, il y a finalement une prise en main qui est un peu plus longue. Donc on va s'installer dans la durée.
Et en termes d'efficacité justement, alors ça marche vraiment, vous avez pu le mesurer?
Ouais, tout à fait, on a eu des résultats assez probants. Donc nous l'enjeu prioritaire c'était vraiment d'aller travailler la visibilité, la croissance sur ces régions. On a noté une croissance de trafic de plus de 60 points de différence.
Ah ouais.
Après la campagne sur les deux villes, on a recruté plus de 70% de nouveaux visiteurs. Et on a aussi une amélioration significative de notre conversion.
Alors, qu'est-ce que vous retenez de cette campagne?
Donc, qu'est-ce qu'on retient? Ça a été d'abord la capacité de ciblage qu'on a pu exécuter pour aller cibler vraiment une audience précise. Et c'est vraiment l'exécution. Vraiment le travail du catalogue sur le fond, sur la forme, avec un travail du papier, une exécution au niveau des images, une entrée par les tendances. Donc voilà un contenu un peu différenciant, de qualité, et qui pouvait véhiculer un petit peu les différents codes de la marque.
Merci beaucoup Marion Belloc. Je rappelle que vous êtes responsable campagne marque France de Made.com. Merci aussi à Frédéric Roy, rédacteur en chef de CB News, d'avoir été à mes côtés. On se retrouve bien évidemment la semaine prochaine pour un nouveau numéro d'Hebdo.com sur BFM Business.
Tout ce qu'il faut savoir sur les marques et leurs stratégies de communication. Hebdo.com sur BFM Business.